Et l'émission continue dans un tout autre contexte, puisqu'après le montage d'archives et l'animation découpée, nous prenons les routes du Paris de la fin des années 1950 et précisément en 1959. Le cinéma est en train de changer. Les jeunes critiques des cahiers du cinéma défoncent Duvivier, Clair et le vieux cinéma français qui leur fait injustement horreur. Et en 1959, certains de ces jeunes auteurs ont déjà réalisé leurs premiers films comme Chabrol, Rivette ou encore François Truffaut qui s'apprête à présenter Les 400 coups à Cannes. C'est à ce moment que commence Nouvelle Vague, le nouveau film de Richard Linklater, donc notamment réalisateur de la trilogie Before ou de l'impressionnant Boyhood, avec, donc, avec ce festival de Cannes 1959 qui fait un triomphe à Truffaut et à Jean-Pierre Léaud, que le film commence alors qu'un autre de ses jeunes critiques, Jean-Luc Godard, procrastine tout en s'en voulant de ne pas réussir à réaliser son premier long métrage. Qu'à cela ne tienne, à la faveur du succès cannois des 400 coups, le producteur Georges de Bourgard, figure capitale de la Nouvelle Vague, donne sa chance à Godard en lui offrant de réaliser un scénario de Truffaut fondé sur un fait divers récent. C'est le début de l'aventure d'À bout de souffle, semé d'embûches, raconté comme un récit d'aventure sans quête au fond, hein, mais où tout de même le héros doit assembler autour de lui comme une confrérie, une camaraderie de personnages ayant tous un talent, vraiment presque comme dans un récit de fantasy, hein, du chef-op à l'assistant réal, de la star à la script, du cascadeur à la maquilleuse, en passant par l'attaché de presse. Alors certains voudront abandonner en cours de route, d'autres restent amusés par la désinvolture de celui qui n'est pas encore JLG, mais bien un mec qui ne sait pas trop où il va, au fond assez cagneux avec ses citations et avec ses amis snobs, mais qui se laisse porter au moins autant par le hasard que par sa volonté un peu flanchante. Voilà. Pour une fois, il n'était pas bien compliqué de résumer le film, de résumer ici cette fameuse aventure donc, que Linklater filme dans un mouvement de fétichiste assumé, hein, de reconstitution tant de la ville et de la vie parisienne de 1959 que dans la pellicule elle-même, abîmée, qui saute de temps en temps. Et chose qui me paraît assez symptomatique de tout ça, c'est qu'elle paraît notamment très endommagée toutes les 20 minutes, puisqu'une bobine de film dure 20 minutes, et donc que les dernières images de cette bobine sont souvent rayées, grattées, du fait que ce sont elles qui sont les plus touchées, les plus montées et les démontées. Voilà, Linklater pousse même la représentation jusqu'à placer toutes les 20 minutes donc un cercle noir en haut à gauche pour indiquer le changement de bobine, justement. Bon, bref, ce n'est là qu'un des 1000 détails que le réalisateur américain veille à placer minutieusement dans son film, une quasi maniaquerie qui contraste fort avec la liberté que professent et dont font montre tous les personnages, et qui, cette maniaquerie qui du reste est assez insensible, ou en tout cas n'est pas venue gêner mon expérience de spectateur. Car oui, j'ai vraiment adoré Nouvelle Vague, bien plus encore que je ne le pensais. C'est un film vraiment très drôle, très léger, qui me paraît, on pourra en reparler, assez au fond iconoclaste, en tout cas désacralisateur, car il pointe très légèrement en effet, mais une forme de critique de la politique des auteurs qui est défendue par les cahiers à l'époque et qui a fait un peu de mal au cinéma tout de même, en restituant ainsi plutôt que juste la personnalité de Godard, le monde de la Nouvelle Vague. D'ailleurs, le film ne s'appelle pas Godard, hein, donc vraiment comme un monde de l'art, au sens que peut donner l'essayiste américain Howard S. Baker à ce terme. Puisque Linklater donne de l'importance à tous les rôles sur le tournage, même ceux qui furent le moins utiles, hein, comme la maquilleuse de Jean Seberg. Et chaque personnage est présenté par un sous-titre qui nous dit « Voilà Truffaut, voilà Raoul Coutard, voilà Suzanne Schiffman ». Tous, même les plus petits rôles, même ceux qui sont muets, apparaissent avec un regard caméra qui leur donne une semblable importance, disant que sans eux, s'il avait manqué le moindre d'entre eux, ce film à bout de souffle aurait pu être un gros navet ou une catastrophe. Et donc voilà, finalement quelque chose d'assez dingue s'opère, quelque chose qui relève d'une magie dont Linklater rend formidablement compte, emporté par un élan jeune, frais, porté par des acteurs et des actrices dont c'est pour beaucoup le premier rôle, et j'espère qu'ils sont récompensés au César si le film est éligible. Enfin bref, je vois ce qu'on pourrait ne pas aimer dans Nouvelle Vague, et pourtant, je l'annonce ici, c'est clairement un des meilleurs films de 2025 pour moi pour l'instant. Enfin, sincèrement, j'y réfléchissais ces derniers temps, et, parce que l'année est en train de se terminer, et il y a peu de films sortis cette année qui m'ont à ce point... voilà, réjoui, donné le sourire en sortant, et tout en étant, à mon avis, beaucoup plus profond qu'il n'y paraîtrait. Voilà, mais je vais vous laisser la parole après ce monologue. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Clémence ?
Alors, moi, j'avais annoncé en arrivant que j'étais très influençable et en l'occurrence, moi, j'ai pas du tout détesté, j'ai bien aimé, mais plus je t'écoute, plus je suis emballée. Non, plus sérieusement, le film m'a plu, effectivement, mais j'aurais, je pense, pas un enthousiasme aussi prononcé que le tien, parce que c'était très sympa. Effectivement, on se sent un peu emporté par toute la petite bande et il y a quelque chose qui est très agréable et très. Voilà, moi, je me suis beaucoup. Enfin, le personnage de Belmondo m'a plu parce que. C'est lui qui a le plus une certaine désinvolture et qui a la plus grande confiance en Godard justement et qui
interprété par Aubry Dulin. Pardon, voilà, je me rends compte que j'ai pas du tout dit les acteurs tout à l'heure.
Non, merci beaucoup. En plus, pour la majeure partie d'entre eux, ce sont de nouvelles têtes.
De parfaits inconnus.
Absolument. Et donc, je n'ai pas noté les noms, donc merci de le préciser. Donc voilà, j'ai adhéré à l'espèce d'esprit de désinvolture, justement. Voilà. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est un film dont on a, en tout cas, dont moi j'ai beaucoup de choses à dire, ou en tout cas qui me marquera et qui restera longtemps. C'était très amusant, très intéressant, et c'est vrai que ça restitue bien l'époque, en tout cas le fantasme qu'on en a, mais qui contient sans doute une part de réalité. J'ai beaucoup aimé le procédé avec regard caméra et sous-titres des noms, absolument, et même les petits cartons à la fin du film qui précisent que c'est peut-être 160 réalisateurs qui avaient fait un premier film dans les années de la Nouvelle Vague, donc ça m'a plu, c'est vrai. Par contre, là où j'aurais un désaccord avec toi, c'est, et c'est presque un paradoxe, mais alors même que le film réussit à montrer cet esprit de bande et toute une époque, et effectivement que c'est pas le film n'est pas intitulé Godard comme tu l'as dit, bah je trouve que ça entre quand même un peu dans aussi mettre l'auteur sur un piédestal. Et pour moi, Godard reste quand même le cœur du film. C'est annoncé dès la première scène, enfin non, pas une des premières scènes, pardon. Quand c'est un homme présente à Juliette Gréco-Godard en lui disant il n'est ni Chabrol ni Truffaut mais c'est lui le vrai génie. Voilà, pour moi le film il a l'image de ça et il met Godard très en avant et c'est pas d'ailleurs forcément un reproche mais je trouve que c'est voilà, dans ce fantasme du cinéma des années 60 et de la Nouvelle Vague, on est quand même à fond dans la toute puissance de l'auteur à mon sens.
Merci Clémence. Juliette, toi quel est ton avis sur cette Nouvelle Vague?
Alors j'ai beaucoup aimé, je te rejoins parce que je trouve que c'est un film qui est léger, qui est très drôle, qui donne très envie de voir des films et de faire des films. Enfin, il y a vraiment un amour du cinéma qui est partagé par ce film qui est assez impressionnant. Et oui, qui donne le sourire du début à la fin. Alors au début du film, moi je n'étais pas très convaincue. Il y a eu une évolution de ma position de spectatrice au fur et à mesure puisque je le trouvais divertissant, mais je voyais vraiment la visée documentaire. Qui prenait le dessus sur tout le reste avec beaucoup de références, vraiment une contextualisation de l'époque et des gens au début avec ces plans rapprochés, regard caméra de tous les personnages que vous avez évoqués que moi je trouvais assez artificiel au début et donc je trouvais ça intéressant mais c'est vrai que je voyais pas l'intérêt du film en soi, je trouvais plus instructif qu'autre chose. Mais au fur et à mesure, je me suis fait prendre par le plaisir de l'histoire et je trouve que Godard devient même attendrissant alors même qu'il est quand même très, très pédant. Il y a une joie de vivre et une liberté qui est totalement communicative quand toute la bande commence à rentrer vraiment dans cette atmosphère de joie et être en mode, bon, de toute manière, on ne sait pas ce qu'il fait, mais à ce stade, on le suit. Ça, j'ai beaucoup aimé. Cela dit, j'ai plusieurs réserves. J'ai déjà un commentaire, j'aimerais bien qu'on y reviendra après.
Bien sûr.
Mais je trouve que c'est un film qui, dans sa réalisation, sa manière d'être mis en scène, de filmer, est totalement à l'opposé de ce qui est mis en avant dans le film. C'est la première chose qui m'a perturbée. Le film est très standard dans sa manière de filmer, alors même que ça nous donne un amour du cinéma, de toutes ces inventions et de cette créativité de Godard qui était vraiment à contre-courant de tout ce qui se faisait. Donc je trouvais un peu déroutante. Alors c'était peut-être une manière très lisible de nous faire comprendre cette révolution, donc ça se tient, mais c'était quand même assez déroutant. Et voilà, et même dans sa manière de filmer, c'est vrai que le réalisateur revendique des répétitions, etc. Enfin bref, pas du tout ce qui est mis en avant dans le film. Et mon autre remarque, pour le coup plus une critique, c'est que j'ai eu limite un peu honte d'avoir aimé ce film. C'est-à-dire que je me suis vraiment sentie la cliente par excellence, la cinéphile qui va évidemment aimer toutes ses références, qui va aimer voir ses visages. Et au fur et à mesure, je me suis demandé qu'est-ce que vraiment ce film valait au-delà de cette sphère-là, qui est quand même qui est la nôtre, hein, tous les quatre autour de cette table, et que du coup, oui, que vaut vraiment cette histoire en dehors de tout ça? C'est pas forcément Enfin, c'est pas une critique au sens qu'il a pas sa place, mais par contre, voilà, je me demande à quel point il peut être touchant et à quel point justement ça peut être le film de l'année comme tu le prétendais au début, notamment pour cette raison.
Merci, on reviendra évidemment sur toutes ces questions. Si, Aubry, tu as revu ce film, tu l'avais vu à Cannes.
Oui, j'ai pu le revoir et réévaluer quand même un peu à la hausse parce que c'est vrai qu'à Cannes, j'avais un goût un peu amer, enfin je trouve le film tout à fait aimable. En fait, j'aime beaucoup le film. Je comprends toujours pas en fait pourquoi il était mis en compétition officielle à Cannes, mais c'est du chipotage administratif. Non, par contre, pour parler du film en lui-même et pour rebondir sur ce que t'as dit, Juliette, moi, je trouve au contraire que cette espèce d'a priori qu'on pourrait avoir sur le film en mode c'est très cinéphile et effectivement c'est un pur délire fétichiste de cinéphile. Ben en fait, je trouve paradoxalement que, comme tu l'as dit aussi, il rend la figure de Godard assez marrante et sympa. Et en fait, moi, je définirais le film comme un peu le film que je montrerais aux gens qui détestent Godard par a priori pour leur faire apprécier Godard. Ouais, c'est-à-dire que...
Il a une vraie vertu pédagogique, effectivement, je trouve, mais dans le meilleur sens du terme, parce que c'est un mot pédagogique qui pourrait être terrible pour le cinéma, mais là, en l'occurrence, je trouve que c'est pas didactique, justement.
Non, pas du tout, mais...
Ça t'accompagne dans l'apprentissage,
en fait, vu que le film, le film est à la fois fait par des gens qui sont fans de Godard, hein. Je pense que, bon, Linklater, il fait pas Nouvelle Vague, parce qu'il aime pas ça ou quoi, au contraire, mais en même temps, en fait, il le fait avec aussi la distance qu'il faut, c'est-à-dire qu'il a, et c'est ça aussi qui fait que le film est drôle et particulièrement vivant, c'est qu'il y a cette espèce de distance critique de Godard, c'est pas seulement l'espèce d'icône ou de monument qu'on en a fait par les médias, l'histoire du cinéma, etc. C'est un type assez marrant, un peu bizarre, qui parle beaucoup en station, enfin, comme tu l'as dit, Louis, un espèce de cagneux qui serait toujours en Cannes, quoi. Enfin, d'ancien cagneux qui serait toujours en Cannes. Donc voilà, moi je trouve que en fait, tout ça est assez chouette. Le film est très très mignon. Enfin, pour moi, c'est vraiment un petit bonbon. Parce qu'il y a ce côté reconstitution très minutieuse. Il y a cet amour sincère et au fond assez tendre pour ce qu'il montre et ce qu'il raconte. Après, voilà, le problème que j'ai avec le film, c'est qu'en fait, je trouve ça un peu court et un peu plat. Et en fait, pour reprendre le titre du film de Godard, je trouve que le film s'essouffle assez vite, dans le sens où, et encore une fois, comme tu l'as dit, Juliette, c'est très classique, quoi, pour un truc qui reprend, enfin, qui te raconte le tournage d'À bout de souffle. Et disons que c'est pas non plus un drame en soi, mais je trouve ça dommage parce que du coup, je reste un peu beaucoup sur ma faim, notamment dans ce genre, enfin, qui n'est pas complètement le biopic, mais on va dire le film un peu historique, quoi. Je me dis qu'il y avait quand même moyen de faire beaucoup plus original formellement, mais bon, ça reste quand même très très sympathique.
Merci beaucoup. On peut revenir précisément, Juliette, sur ce que sur ce par quoi tu concluais tes remarques. Alors, pour parler des deux points que tu évoquais, justement, je suis d'accord personnellement sur aussi Aubry, ce que tu viens de dire, sur le fait que le film n'innove pas vraiment, que le film est vraiment très formaliste, très formaliste, dans l'esprit reconstitution, pas tant dans l'esprit de montage, et d'ailleurs, c'est un des angles morts même de l'histoire qu'on nous raconte. Le montage d'À bout de souffle, il est expédié en une scène de 30 secondes, alors que quand même c'est un peu là que tout se joue, à mon avis. Mais on peut en reparler, parce qu'effectivement, tout le côté reconstitution peut avoir un aspect assez vain. Il se trouve que récemment, j'ai vu une avant-première, un film dont je parlerai à la rentrée à cette antenne, L'inconnu de la Grande Arche, de Stéphane de Moustier, qui lui aussi a une reconstitution très 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 minutieuse, très précise, avec des voitures d'époque, avec les Champs-Élysées, etc., mais donc des années 80. Et en fait, quoi que ce ne soit pas le sujet de son film, cette reconstitution est l'occasion, en fait, d'un propos politique sur les années Mitterrand, la cour présidentielle, en fait, que c'est les courtisans aussi, mais en même temps l'époque des grands projets culturels, architecturaux, etc. Quand même, ce n'est pas le sujet du film. Ici, effectivement, on n'a rien sur le contexte de la fin des années 50. Il nous est vite fait dit que Belmondo revient de son service militaire en Algérie, mais il n'y a rien sur l'Algérie. Il y a, pour ne parler que de cet éléphant-là dans la pièce, Donc c'est sûr que le film, voilà, sur ce côté-là, il pêche un petit peu. Et il y a aussi un peu un côté bingo, effectivement, de qui on verra. Il y a notamment une scène qui est presque faite pour ça, où il y a tout le monde, où il y a Romer, Rivette, Varda, Demi, Rossellini. Donc et là, effectivement, c'est ce que tu dis aussi. Cette scène-là est symptomatique, et là je retombe sur mes pattes, de ce que tu disais de « est-ce que ça ne parle qu'à nous ?» entre guillemets, cinéphile, amateur, amatrice de cinéma, etc. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir les backstage d'un texte assez important que j'ai eu de mon mémoire toute l'année dernière, le passage de Rossellini au cahier. Bon, et je pense que non. Je pense sincèrement que le film peut, par sa vertu justement pédagogique, par le fait aussi qu'il montre des gens qui sont à la fois très imbus d'eux-mêmes et en même temps très très, enfin à qui il manque plein d'assurance, de confiance en eux, etc. Il peut être, on peut s'y identifier, quand bien même on n'a pas du tout, on n'est pas du tout dans cette espèce de milieu-là. On peut le trouver, à mon sens, relatable, pour ainsi dire, parce que c'est des gamins en fait de 24-25 ans qui voilà sont un peu en train d'inventer des trucs au fur et à mesure, et c'est ça moi qui je trouve fait le charme du film. Et qui fait qu'il y a vraiment des moments où juste au bout d'un, j'ai juste oublié qu'ils étaient en train de tourner à bout de souffle et que je savais comment ça allait se terminer. Je voyais juste les trucs au jour le jour, les canulars au téléphone en mode je suis malade, etc. etc. Donc à mon sens, c'est ça aussi une de ces forces du film, ces trouvailles-là.
Bah, vas-y, je l'attends.
Bah, non, mais en vrai, je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai que l'aspect pédagogique rend le film, en fait, assez accessible. Mais alors, du coup, je pense que c'est à double tranchant. Parce que, certes, moi, je trouve que ça reste un film de cinéphile. Parce que qui d'autre, à part les cinéphiles, va voir un film qui s'appelle Nouvelle Vague? Et en plus de ça, c'est vrai que cet aspect pédagogique fait que, en fait, ça reste un feel-good movie, hein, un film très
accessible,
qui rend heureux, etc.
Vraiment, vraiment, oui, c'est exactement ça.
Mais où, du coup, ça revient à mon autre point, que je trouve ça assez, assez étrange de voir un film qui est aussi, lisse, le mot est fort, mais vraiment standard dans sa manière d'écrire une histoire avec... En fait, je sais que c'est très documenté et que vraiment ça s'inspire de comment s'est déroulé le tournage, etc. Donc voilà, il n'y a pas eu à inventer une histoire, mais quand même, dans la manière dont le film est mis en scène, c'est très cliché. Il y a cette figure du producteur qui, évidemment, rappelle à Lord Goddard, mais en même temps, c'est un peu son pote, il a envie de l'accompagner dans cette démarche un peu folle. Enfin, tout est un peu... Tout se passe si bien à la fin, ça... les autres réalisateurs applaudissent tout en rigolant un peu du film à bout de souffle. Donc, je sais pas, j'ai trouvé qu'il... En fait, je rejoins ce que dit Aubry. C'est un bonbon, c'est très agréable à regarder, mais je trouve que ça va pas tant au-delà de ça. Je sais pas si c'est un film si mémorable que ça, et c'est d'autant plus perturbant que tout ce qui est mis en avant dans ce film, donc vraiment cette créativité, etc., en fait, n'est pas vraiment présente à l'écran, je trouve.
Mais je pense que justement, moi, c'est ça aussi qui m'a plu, c'est ce côté très, très film d'ado, film qui gomme le fait que c'est Godard aussi, je suis d'accord avec toi que ça presque dans un sens ça aseptise la force radicale de À bout de souffle, hein, ce côté. Mais en même temps, j'ai vraiment aimé sa structure narrative hyper classique. Je parlais de quête en introduction, mais il y a vraiment de ça, c'est-à-dire que il y a des personnages adjuvants en quelque sorte, avec qui sont Rossellini, Melville, Bresson, qui donnent un peu les clés comme ça du cinéma d'À bout de souffle à Godard. Mais en fait, j'aime bien justement cette take là, ce point de vue là qu'on a sur l'histoire du cinéma, très très jeune, encore une fois je me répète, mais vas-y Aubry.
En fait, moi pour le coup, pour revenir sur le côté à la fois c'est un film de et pour cinéphiles et les scènes où on voit toute la ribambelle de personnages, en fait moi c'est pas forcément, tu vois, les réalisateurs en eux-mêmes, c'est-à-dire Romer, Rivette, tous les autres, Demi, Varda, qui m'ont fait tiquer, parce qu'en fait même eux, à leur échelle, ils sont relativement connus. Alors bon, pas tout le monde non plus, mais je veux dire, ça vient un peu facilement. Par contre, moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est quand t'as deux mecs qui sont présentés, un dont j'ai oublié le nom, et à côté de lui, il y a Georges Sadoul. Georges Sadoul, tu vois, c'est vraiment vieil historien du cinéma qu'on travaille plus des masses aujourd'hui. Disons que c'est pas là. Par rapport au réel de la Nouvelle Vague, c'est pas la figure la plus populaire. Enfin, c'est vraiment un truc de niche pour le coup.
Oui, mais il est muet, Sadoul. Enfin, je veux dire, c'est juste que c'est justement ce panorama où on a le truc sur tout le monde. Il dit rien.
Non, il dit rien. Mais je veux dire, mais non, mais en fait, il a sa vignette avec son nom. C'est ça que je veux dire.
Oui.
Et c'est qu'en gros, moi, c'est quand j'ai vu que dans ce truc-là, enfin, parce que si tu vas par là, Demi et Varda, ils ont une ligne de dialogue. Hein,
ah oui, complètement. Oui, vas-y.
Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le fait d'intégrer Sadoul là. Ça peut paraître à double tranchant parce que tu dis c'est vraiment un truc d'énorme nerd en mode faites le bingo des gens de l'histoire du cinéma que vous reconnaissez. Et en même temps, je me suis dit bah, la plupart des gens, tu vois, ne savent pas qui est Sadoul de la même manière que moi, à mon échelle, et qu'en fait, je pense que beaucoup de gens, enfin, la plupart des gens qui sont juste pas spécialistes à fond, genre qui sont pas Antoine de Beck, tu vois, bah, en fait, je pense que la plupart des gens ils voient genre Sadoul, ils se disent bah, en fait. C'est un mec, il a un rôle, je sais pas qui c'est, peu importe, on l'entend pas, etc. Mais du coup, et c'est là qu'il y a l'intérêt, enfin, pour moi, il y a l'intérêt du film, c'est qu'en fait, ça montre que tout ça résulte d'un mouvement assez collectif, et en fait, ça désolidarise complètement le film à bout de souffle, et l'image qu'on peut se faire même de la nouvelle vague, de la politique des auteurs, etc., d'un truc très très individualiste. Et là, je trouve que le film est pour le coup assez génial, c'est qu'il y a ce côté aventure en bande, que Godard, c'est un peu le fou du bus qui donne les directives. Mais en fait, on voit très bien que bah, sans Raoul Coutard, sans Belmondo, sans Gene Seberg et tout, ça se casse la gueule. Et ça, je trouve que le film le fait très bien. Et c'est un peu symbolisé par ces personnages-là qui sont listés à outrance, pour moi, au second degré, entre guillemets, comme une, et en même temps un peu au premier, comme une manière plus qu'autre chose de dire que c'est collectif, que ça se pose dans un contexte. Et là, pour le coup, effectivement, ça retourne une certaine image... au moins populaire dans le sens grand public de cette période-là d'histoire du cinéma. Quoi.
Je suis complètement d'accord, mais Clémence, tu voulais peut-être revenir sur la question de l'auteur et de, oui, du personnage de Godard qui est interprété, on va les faire au fur et à mesure, par Guillaume Marbeck, oui, en l'occurrence. Donc c'est le premier long métrage.
Hein. Ouais, et premier rôle tout court, en fait, je crois.
Il a fait deux, trois courts métrages.
Mais, okay. Oui, bah, en fait, alors moi j'ai un peu l'impression qu'il y a comme deux lignes directrices dans le film. C'est vrai que je suis parfaitement d'accord, ça montre vraiment bien le caractère collectif de la nouvelle vague. Et d'ailleurs, moi, dans la scène, donc, la scène dans laquelle il y a une accélération tout d'un coup des noms qui apparaissent sur l'écran, c'est effectivement, tu l'as dit, c'est la scène où Rossellini vient au cahier pour de faire un cours quasiment, absolument. Et donc là, effectivement, il y a des noms qui sont beaucoup moins connus, en tout cas. J'en ai reconnu très peu dans cette scène-là, donc pour le coup, voilà, sur ce coup-là, j'avais pas tous les noms. Et donc ça montrait effectivement très bien le caractère très collectif et tout, enfin ça c'est vrai, et c'était en ça que le film est très cool et très appréciable. Mais je dis deux lignes directrices parce que c'est pour moi un peu différent pour ce qui touche à tout ce qui montre le tournage du film en lui-même, parce que alors même que le caractère collectif est montré, mais un peu à l'insu du film, j'ai l'impression, alors même que c'est très très explicite par tout ce procédé de montrer les noms à l'écran, voilà, pour ce qui est de l'histoire du cinéma et l'histoire du mouvement artistique, en fait. C'est très explicite pour la nouvelle vague, et pour moi, c'est fait en quelque sorte à l'insu du film dans le tournage, parce que même s'il y a, qu'on voit, parce que effectivement, tout le monde est présenté sur le plateau, Raoul Coutard, le chef opérateur, a un rôle hyper important, et c'est très clair. Voilà, donc tout le monde est montré, et malgré ça, effectivement, pour moi, tout est tellement centré sur Godard, où c'est quelque chose qui a, enfin, un peu dans un espèce d'élan romantique où il écrit toutes les scènes, au café le matin même, c'est un peu un metteur en scène, presque tyrannique, quoi. Effectivement, je ne sais pas qu'à la fin, elle n'en peut plus. Belmondo, au fond, il supporte parce qu'ils sont potes et que ça le fait marrer, enfin, voilà. Donc, il a une telle importance, un tel poids, et une telle. J'insiste un peu, mais une telle toute-puissance que pour moi ça reste quand même vachement dans la politique des auteurs, effectivement, comme vous avez dit, et le caractère collectif du tournage en lui-même est montré, mais pour moi un peu à l'insu du film et du réalisateur. En fait, je sais pas s'il a vraiment voulu le montrer, ce caractère collectif d'un tournage.
Mais il te semble pas que quand même les autres personnages servent de relais à un foutage de gueule, en fait, t'as quand même l'impression, même si effectivement, comme tu le dis, il y a cette image très romantique de l'artiste qui écrit ses scènes sur des serviettes au café le petit matin. Moi, il est très ridicule, je trouve, quand même, souvent aussi. C'est-à-dire qu'il y a une tendresse pour lui, qui est effectivement ce cagneux qui n'est pas encore, pour le coup, le mec qui, à 70 ans, citera des trucs, enfin, des trucs irregardables des années 90 de Godard. Mais au contraire, justement, je trouve une grande tendresse dans le regard qui est posé sur lui, qui n'est pas du tout mystificatrice, qui, à mon sens, en tout cas, je pense que la figure de Belmondo que tu as citée sert de relais goguenard, en quelque sorte, de un peu ridiculisation de Godard. Jean Seberg, quant à elle, sert de relais justement pour montrer ce que ça a de tyrannique et d'assez pénible aussi, d'être dirigé par quelqu'un qui ne sait pas lui-même où il va. Et en même temps, le tout avec une sincérité qui est celle du film et qui, moi, m'a assez touché, qui n'est pas du tout, par exemple, le choix d'Azanavicius avec Le Redoutable, qui filmait déjà Godard à leur époque maoïste, donc une dizaine d'années plus tard. Et donc, moi, je trouve que justement, ce manque de respect, il est salutaire, mais il n'est pas parodique. Et donc, il atteint à la justesse. Je pense notamment à un des premiers dialogues de Godard dans le film au tout début, c'est avec Juliette Gréco qui vient complimenter dans une soirée. Et elle lui répond juste « Ne me dites rien, vous êtes metteur en scène. » Et Jean-Luc bafouille « Oui, enfin, c'est-à-dire que je... » Et elle part. Et il finit pas sa phrase. Et je trouve que ça, justement, c'est l'inverse de... Enfin, ça démolit un peu l'espèce de Godard sentencieux, dieu du cinéma, qu'il a construit, en fait, lui-même. C'est-à-dire que je trouve que le film va un peu contre le Godard historique. Et c'est là que, moi, je trouve qu'il est fort aussi. C'est-à-dire c'est qu'il invente des personnages qui ne sont pas les vrais. Il en fait vraiment des personnages de fiction, il les fait appartenir à la fiction, et à ce titre, et au titre de ce régime, du coup, il les ancre dans un récit très très classique, dans une forme très très classique, comme Juliette, tu l'as dit, mais qui donc a une cohérence, à la fin, à mon avis.
Je trouve pas tant, peut-être effectivement au tout début, parce qu'au fond il n'est pas encore réalisateur, c'est vraiment effectivement pas très jeune, et on voit effectivement les ambitions immenses, mais alors pas que de lui en l'occurrence, hein, de ses camarades aussi, donc les ambitions immenses de gens qui sont encore, pour l'instant qui sont critiques, mais pas réalisateurs, qui sont encore amateurs et qui n'ont pas d'expérience. Donc c'est vrai qu'au début il y a un côté ridicule et une tendresse qui est assez touchante, c'est vrai, et donc un regard qui peut-être est un peu en décalage en quelque sorte, mais je trouve que ça s'efface très très vite, dès le moment où justement il passe derrière la caméra, il devient réalisateur, il est metteur en scène. Là pour le coup, je trouve que ça s'efface et qu'il n'y a pas. Tu vois, Belmondo, je trouve pas du tout qu'il serve de relais moqueur. Belmondo, je trouve que c'est.
Je disais ça dans la mesure où il le prend pas très au sérieux. Enfin, il s'investit qu'à.
Je trouve pas. Je trouve qu'il a une désinvolture, mais qui lui est propre. Et au contraire, je trouve qu'il a une certaine fidélité et une confiance dans Godard.
C'est exactement ça. Il le suit de A à Z, voilà, juste parce que c'est son pote. Et en fait, voilà. Il n'a pas les mêmes préoccupations que le producteur, certes, ni que cette comédienne qui a une réputation derrière elle. Mais par contre,
il le suit jusqu'à la mort. Okay. Enfin, pour le coup, et du coup, je trouve qu'effectivement, il n'a pas un relais moqueur. Ou alors, si, mais sur plutôt tout le système de production. Je trouve qu'il est beaucoup plus moqueur des craintes du producteur, justement. Surtout que, quand on le voit, on connaît le succès du film après. Et voilà, ça c'est un truc que j'avais lu en cherchant, parce que j'avais pas tant de choses à dire que ça sur le film. C'était que beaucoup de gens ont trouvé que...
D'ailleurs, on y arrive.
Oui, on y arrive, c'est vrai. Beaucoup de gens ont trouvé que le film montrait bien ce en quoi À bout de souffle aurait pu être une catastrophe, ou au contraire un éclair de génie. Donc en l'occurrence, ça reste comme un éclair de génie, un film hyper marquant, mais ça aurait pu être une catastrophe, parce que justement tout cet amateurisme et ce fait au jour le jour et tout, qui finalement a donné sa force au film. Et donc ça, en ayant conscience avec le recul et des décennies plus tard, on peut plus facilement se moquer des craintes du producteur, puis surtout que le producteur est un peu un con aussi. Enfin, je veux dire, il veut prendre mais strictement aucun risque, il ne pense que par les chiffres. Voilà, donc même le film n'aurait pas été un succès. C'est vrai que c'est une vision qui est quand même assez capitaliste et qui est pas terrible. Bon, bref.
Puis il faut dire qu'effectivement, le personnage du producteur est un peu le point faible du film. Je trouve que même en termes de jeu, il est en deçà des autres. Il a des accents un peu raté, il joue aussi bien que moi, quoi. C'est-à-dire pas bien.
Non, mais disons que c'est vrai que, disons que toute la bande joue vraiment bien.
L'enjeu
est très impressionnant, alors même qu'il joue des personnages.
Et on peut en lâcher un autre nom.
Absolument,
vas-y. Zoe Deutsch, qui est l'actrice qui joue Jean Seberg, qui devient Jean Seberg. Pour le coup, c'est vrai que Nouvelle Vague repousse quand même pas mal sur la ressemblance de sosie et le plaisir. Enfin, là, pour le coup, je pense que c'est un plaisir de cinéphile qu'on peut avoir quand on connaît à quoi ressemblent les gens. ce qui n'était pas mon cas, hein, d'ailleurs. Du coup, je suis terrifié à l'idée de voir la vraie tête de Romère. Enfin, moi, bref. Mais blague à part, Zoe Deutsch, je trouve qu'elle fait vraiment un super travail. Et elle est d'ailleurs un des seuls, j'ai vu tout à l'heure en préparant pareil l'émission, une des seules récompenses du film qui a été sélectionnée dans quelques festivals, donc en compétition à Cannes. Et un festival pas très très connu aux États-Unis, elle a eu le prix pour de révélation féminine pour le coup, parce que, et qu'elle mérite à mon sens.
Mais c'est vrai que moi, Juliette. Je reviens juste sur ce que disait Clémence à l'instant, parce que moi, je suis totalement d'accord avec elle, et donc pas du tout avec toi, Louis, sur le fait que, évidemment, au début, il y a quelque chose de très divertissant dans le fait que tout le monde ne sait pas vraiment s'il devrait suivre ou pas Godard, et du coup, ça ne fait que mettre en exergue son côté très, très pédant, mais en même temps un peu torturé, et il ne sait pas vraiment où il va, et la peur du temps qui passe, etc. Donc, il y a un côté, je trouve, plus critique de Godard, on le voit même plus vulnérable que l'image qu'on a de lui maintenant. Mais par contre, j'ai l'impression que tout le film cherche, enfin, c'est même une évidence, à lui donner raison, à donner raison à ses intuitions, à sa manière de faire, peu importe qu'il soit insupportable ou pas d'ailleurs. Et que finalement, tout le monde finit par se ranger derrière cette énergie un peu folle, mais parce qu'il faut y adhérer, parce que maintenant, c'est ça que doit être le cinéma. Donc en fait, je trouve qu'il y a une vraie sacralisation du personnage. Et en fait, je voulais aussi vous poser la question à vous, parce que moi, c'est vrai que je sais pas du tout. Vous savez d'ailleurs, qui est Godard en vrai, à quel point c'est quelqu'un d'insupportable, parce que là j'ai l'impression que ça nous donnait des ébauches de potentiellement quelqu'un qui pourrait être un réalisateur un peu dur à cuire, un peu dur avec ses acteurs, un peu fou, enfin voilà, très, très pédant quoi. Et au fur et à mesure, on a juste l'impression que c'est un gars touchant. Et donc, si ça se trouve, c'est le cas, et de peut-être des interviews ou des choses que vous avez vues de lui, si ça se trouve, c'est vraiment le cas, et dans ce cas, soit. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y avait un enjolivement quand même à la fin où. Ouais. En fait, oui, c'était le mec qu'il fallait croire depuis le début. Et en plus, c'est ce gars un peu mimi qui manquait d'assurance au début, qui se comparait à ses copains. Enfin, voilà, il y a tout, quoi. Il y a un peu un sentimentalisme, quand même, dans le film qui est.
Je serais un peu nuancé, j'avoue, là-dessus. Enfin, en fait, à la fois, je suis d'accord. Et à la fois, je trouve que là où le film arrive à être, d'une ambiguïté assez juste, c'est-à-dire que, pour le coup, oui, c'est indéniable. En fait, il contrebalance la désacralisation de Godard en faisant un espèce de. Enfin, de type qui joue son personnage, qui dit un peu n'importe quoi, qui parle de manière beaucoup trop sibylline pour rien, etc. En faisant en sorte que à la fin, et puis de toute façon, ça veut dire c'est marqué par l'histoire, quoi. Enfin, entre guillemets, il a raison parce que à bout de souffle, marche, ne serait-ce que économiquement, c'est salué et que effectivement, même dans l'histoire du cinéma et tout, c'est reconnu comme une date importante. Mais en fait, même là-dedans, je trouve que ce qu'il fait est plutôt juste dans une. Enfin, je suis pas un spécialiste de Godard ou de sa vie ou quoi, mais pour le coup, c'est vrai que Godard, en fait, assez. Enfin, surtout sur la fin de sa vie, mais en fait, même assez tôt, s'est amusé à construire une image de lui-même, vraiment, enfin, à construire un personnage qui apparaît dans les médias, à travers même ses films, etc. Assez détestable par moments. Il y a plein d'exemples connus. Enfin, il y a le moment où on lui dit: vous pensez quoi de Tarantino qui adore vos films? Et il dit c'est un faquin.
Non, il est odieux, Godard.
Voilà, il est odieux, mais en fait, je trouve que ce que le film fait plutôt juste, je sais pas à quel point c'est vrai, mais du coup, je trouve que c'est. Moi, je trouve ça plutôt beau de la part du film. C'est que pour moi, le film dit pas, mais regardez, arrêtez de croire tout ça, Godard c'est vraiment quelqu'un de chouette. Pour moi, le film dit, regardez, en fait, dès le début, ce mec-là joue un personnage, entre guillemets, et c'est pour ça que c'est intéressant, comme tu disais, Louis, de faire de tous ces personnages-là, mais surtout de Godard, un personnage de cinéma et pas une figure historique, c'est qu'en fait, il te dit, c'est un type qui a clairement conscience de jouer un personnage dès à bout de souffle, en fait. Et il y a toutes les séquences où il y a Gene Seberg qui lui claque le bec et où en fait il dit j'ai pas raison, quoi. Enfin, comme tu disais, même le truc avec Juliette Gréco au début, enfin, le truc où il a pas raison et le film te montre qu'il a pas raison et que par extension, du coup, il joue vraiment un personnage. Et donc pour moi, ça, c'est assez tendre parce que du coup, il te dit, ce mec-là, il se donne une espèce de figure un peu détestable ou pas aimable, mais entre guillemets, il la joue. Et du coup, le film essaye de te le rendre quand même attachant pour te dire, entre guillemets, c'est qu'un jeu. Alors c'est un jeu qui a duré et que lui, il a entretenu et tout, qui peut être, qu'on peut pas aimer. Mais le film dit, faut essayer de dépasser un petit peu ça. Et du coup, je trouve ça intéressant pour le coup.
Non, je suis d'accord. Et puis, à nouveau, et pour peut-être conclure sur ce film, pour aussi répondre à ce que tu disais, Juliette, c'est que quand tu disais que le film dit bah voilà, Godard avait raison depuis le début, en fait, c'était lui qu'il fallait suivre. Moi, je maintiens que c'est pas en tout cas le sentiment que j'ai eu en regardant le film, que j'ai vraiment eu ce sentiment que jusqu'au bout, c'était pas de son ressort. Et que c'était lui qu'il fallait suivre un peu. Bah, de fait, ça a réussi, mais pas à cause de lui, du tout.
La réussite est collective, c'est ça l'équation.
Exactement.
En fait.
Et ouais, voilà, exactement. Et que cette scène, alors, bâclée du montage, met l'angle sur les deux monteuses, mais moins sur lui. Enfin, il dit voilà, moi j'adore ça le montage, on va en faire plein. Mais c'est bien les deux monteuses qui sont au poste de montage qui vont faire ça. Mais je trouve qu'on aurait pu passer quand même un petit peu plus de temps sur le montage et peut-être un petit peu moins sur le tournage qui finit par traîner en longueur sur l'heure 40 que dure le film, qui est peut-être effectivement un petit peu long. Après, à nouveau, avec ce petit système de toutes les 20 minutes, ça passe vite.
Parce qu'on a beaucoup parlé de la forme très formelle et très lisse du film au début. Et donc, non seulement effectivement la pellicule qui saute, et simplement le fait d'écrire jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'au jour 20.
Oui, en fait, ça se forme beaucoup. Mais qui va dans le sens aussi de Juliette, ce que tu disais sur le côté très très classique.
Ah,
c'est-à-dire
oui,
vraiment, c'est déroulement, on ne peut plus.
Ah, oui, on sait, on va.
Voilà. Je pense même à d'autres films de la nouvelle vague. Enfin, il n'y a aucun flashback, il n'y a aucune déconstruction narrative. Donc, vraiment, c'est juste pour faire plaisir. Et moi, ça, personnellement, ça m'a fait plaisir. Voilà.
Mais en même temps, tu vois. Je suis d'accord avec ce que tu disais sur le côté que c'est collectif. Pour moi, il y a vraiment cette espèce d'équation assez simple de il a des idées, et en fait le film te dit il a des idées, mais c'est pas lui en chef d'orchestre qui va se servir des autres pour les réaliser, comme ce qu'on pourrait croire avec le côté Godard du cinéma machin chouette bidule. Mais le film te dit, il te montre, le mec a des idées. Il est incapable de les réaliser tout seul parce que c'est du cinéma, quoi, ça se fait en collectif. Et du coup, la réalisation derrière ne viendra que du collectif et d'un collectif assez libre. Parce que c'est pareil, ce qui est intéressant dans ce que montre le film, c'est qu'il te montre Godard qui n'arrête pas de donner des directions, faites ci, faites ça, même si c'est pas normal, même si c'est pas faisable et tout, faisons-le, enfin faites-le, quoi, avec un côté pour le coup vraiment dirigeant. Et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure du film que paradoxalement, cette direction d'acteur, d'opérateur, etc., sur le film, elle laisse la liberté à ces gens-là, et qu'en fait, les acteurs, actrices, l'opérateur, ils finissent par improviser des trucs. Et,
oui, l'opérateur, il y a pas mal de trucs en fauteuil roulant, dans un chariot de poste, etc., qui sont très amusantes aussi, qui vont dans le sens du film un peu gambadant.
Tu sens que la réussite, du coup, effectivement, elle est désolidarisée de Godard, parce qu'il y a ce truc, pour le coup, un peu expérimental de sa part, où il est en mode... je donne des directions générales, les gens font un truc, mais je leur fais confiance. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pareil, c'est le truc de est-ce qu'on la refait ? Et lui, à chaque fois, il dit ouais, non, on la garde. Et en fait, il fait tout en une ou deux prises. Surtout, il y a une regarde. Enfin, en fait, il y a je sais pas combien de fois où le Raoul Coutard, là, il lui dit tu veux pas jeter un coup d'œil à l'image pour voir si ça te plaît ? Et lui, il dit non. Et en fait, juste, il y a ce côté genre. Il pose les conditions, en gros, il dit ce qu'il veut et il fait confiance à ses collaborateurs et collaboratrices derrière. Et en gros, le film, je trouve, montre un peu ce côté, ça, c'est la condition de réalisation du film. Et du coup, je trouve ça assez chouette. Et pour terminer, j'aurais deux petits mots, à la fois sur le producteur qui a été injustement bâché il y a quelques minutes. Alors oui, c'est pas l'acteur le plus formidable de la bande. Et après, il a peut-être pas les scènes les plus faciles pour lui. Mais je trouve par contre que sa dernière apparition, quand ils font le bilan avec Godard, est pour le coup extrêmement touchante. Au moment où il dit... en gros, je suis désolé, je vous ai fait un peu chier, mais vous m'avez fait chier aussi et tout. Et que Godard lui dit, en fait, j'aurais jamais bossé avec un producteur avec qui je suis pas ami. Traduction, je suis ami avec toi. Et pareil, en fait, ça parachève ce que je disais tout à l'heure, dans le sens, c'est le personnage de Godard qui dit, depuis le début du film, je te fais chier parce que ça me fait marrer que je joue un personnage, etc. Mais en fait, sincèrement, je sais bien toute ton importance et je sais ton rôle et pourquoi tu me fais chier et je te fais chier. Mais en fait, je l'aurais pas fait sans toi. Et de la même manière, pas de la même manière, mais Là, c'est vraiment un point pour terminer, désolé. Comment dire, c'est une toute petite scène que j'avais oubliée de mon premier visionnage et que là, qui m'a frappé. C'est la première scène où on voit Raoul Coutard, où il se présente un peu en entretien avec Godard, et Godard lui dit « Vous êtes capable de faire ci, ça et tout. » Et Coutard, il lui répond « Bah écoutez, moi j'ai fait la guerre, c'est là que j'ai appris à manier une caméra. Donc les tournages sauvages, ça me connaît, les plateaux, j'en avais pas, je filmais sur le fait, etc. » Et je trouve qu'en fait, ça... c'est assez symptomatique de ce que peut être à bout de souffle selon une certaine lecture et ce que n'est pas la nouvelle vague de Linklater. C'est-à-dire qu'on te parle d'un film qui est réalisé un peu à la sauvette comme ça et avec des manières qui en fait sont très politiques par rapport à ça parce que c'est tourné entre guillemets comme un film de guerre, enfin, de façon un peu tirée par les cheveux, mais techniquement c'est ça. Alors que le film de Linklater, c'est un objet complètement muséal et beaucoup plus fixe, même si il est très vivant. Bah en fait, c'est oui, c'est un truc muséal animé, quoi. Donc c'est le problème que j'ai avec le film, c'est ce paradoxe-là. Mais voilà.
Eh ben super. Merci beaucoup à tous les trois et on va passer tout de suite, eh bien, au conseil. Et de conseils, Clémence, je vois déjà le tien.
Absolument,
pour le coup.
C'est très peu radiographique, mais
en physique dans le studio.
J'en ai deux et ce sont deux lectures, donc bon voilà. Et donc il y en a un qui est avec nous effectivement en studio. C'est un livre qui s'appelle Photos de cinéma autour de la nouvelle vague 1958-1968. C'est publié chez Images France Éditions, une maison que je ne connais pas et qui du coup j'espère ne sera pas trop difficile à trouver, mais voilà. Et c'est donc une compilation de photos de Raymond Cochetier et Marc Vernet. Donc bah voilà, de nombreux tournages, dont bien sûr À bout de souffle, je pense que c'est les photos qui est le plus, d'ailleurs c'est la couverture du livre, mais pas que, il y a beaucoup d'autres films de Truffaut, de Chabrol, de Melville, voilà, et d'actrices bien sûr qui ont fait La Nouvelle Vague, de Moreau, enfin Jeanne Moreau, Anouk Aimée, et Françoise Orléac.
Et voilà. Question juste, Marc Vernet, c'est pas un des personnages du film? Enfin, parce que j'ai l'impression qu'il y a un personnage qui s'appelle comme ça et justement qui est un des photographes de plateau en fait.
Ah bah si, c'est très probable parce que, alors en tout cas, Raymond Cochetier, c'est le photographe qu'on voit le plus dans le film, oui, et c'est celui qui m'a, c'est celui dont je me rappelais le nom, donc, mais Marc Vernet est.
Bah moi, c'est le contraire en fait. Raymond Cochetier, je m'en souviens pas du tout dans le film, mais par contre, Marc Vernet, ça me dit un truc.
Il y a les deux photographes qui sont représentés dans le film, c'est très probable. Et le deuxième conseil de lecture, c'est une interview de la costumière Pascaline Chaval, qui est interviewée par. Enfin, en tout cas, c'est une rencontre dans le monde sur son travail de costume, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais moi, les costumes, bon, qui pourtant sont effectivement assez simples, il n'y a rien d'extravagant, il n'y a rien quoi que ce soit, mais m'ont beaucoup plu, je les ai trouvés très élégants. C'était voilà, un plaisir purement esthétique, mais. Très grand, et donc elle est deux fois césarisée et elle est interviewée dans Le Monde là début octobre. Voilà.
Merci beaucoup. Juliette, ta recommandation pour les vacances?
Oui, là ça me prend un peu au dépourvu parce que cette semaine a été, j'aurais pas de recommandation ni Chine Underground pour vous, parce que j'ai passé ma semaine à regarder Le Bureau des Légendes, mais du coup ça devient ma recommandation. Pour les rares qui l'ont pas vu, parce que là je fais quand même la pub de quelque chose d'immensément connu.
J'ai pas vu moi, donc vas-y.
Mais c'est fantastique, il faut se brancher Le Bureau des Légendes. C'est, franchement, là je suis depuis 3 semaines dans ça, donc je vais vraiment bientôt finir. Alors que c'est des longs épisodes, c'est une des séries les mieux écrites que je n'ai jamais vues, qui est extrêmement bien jouée. Avec un Mathieu Kassovitz qui est vraiment au prime de son sex appeal pendant toute cette série. Enfin, c'est fantastique de le regarder jouer aussi bien. Enfin, ça marche très très bien. Et franchement, pour une série Canal, je m'y attendais pas du tout. J'avoue avoir juste traîné sur Canal+, avoir cliqué sur ça parce que logiquement j'en avais entendu parler. C'est génial. Il faut faire ça pendant les vacances. C'est la bonne période de l'année, je trouve, pour s'y mettre. Voilà.
C'est noté.
Merci beaucoup, Juliette, pour cette recommandation enthousiaste. Aubry, de ton côté.
Eh ben alors moi, ça va être un conseil lyonnais et comment dire, vraiment ciblé vacances parce que ça commence dès donc mercredi 22 octobre, qui est probablement le jour où sortira cette émission.
Absolument. Voilà. Oui.
Donc dès aujourd'hui, pour les gens qui écoutent l'émission, enfin mercredi 22 octobre, c'est la reprise du Festival Lumière à l'Institut Lumière, donc au hangar de l'Institut Lumière. Et dans cette reprise, moi je voudrais vous conseiller tout particulièrement la reprise des films de Michael Mann. Il y en a 5 au programme si je ne dis pas de bêtises. Le Solitaire, Le Dernier des Mohicans, Hit, Collateral et Miami Vice. Et encore plus particulièrement, je voudrais attirer votre... et Révélation, ça fait 6, pardon. Je voudrais attirer votre attention sur deux de ces films. Le premier, c'est Révélation, dont j'avais déjà pu parler l'année dernière. qui ici, en fait, Arte est diffusé en copie 35mm pour la simple et bonne raison que le film n'a pas encore été restauré et n'est donc disponible qu'en 35mm. Il n'a pas été réédité en DVD ou quoi que ce soit, donc rareté. Et en plus, c'est un film passionnant. Et surtout, Miami Vice, qui n'est pas forcément le film dont on parle le plus ou qu'on a le plus retenu de Michael Mann, et qui, je trouve, est son plus radical, son meilleur, et juste, en fait, un des meilleurs films du cinéma américain des 20-25 dernières années. Donc voilà, il y a 2-3 séances à chaque fois pour les 6 films. C'est à partir du 22 octobre jusqu'à la mi-novembre, en gros. Donc écoutez, faites-vous plaisir et c'est tout simplement un des plus grands cinéastes contemporains que vous pouvez redécouvrir si vous l'avez manqué au festival.
Merci beaucoup Aubry. Enfin, de mon côté, pour prolonger sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur Nouvelle Vague et la Nouvelle Vague, il se trouve que donc, sur 2 plateformes de streaming indépendantes d'excellente qualité, il y a des films de la Nouvelle Vague à voir, et je dirais à voir de toute urgence. Donc sur la Cinéthèque, dans l'abonnement jusqu'au 7 novembre, il y a un double programme à l'occasion de la sortie de Nouvelle Vague. Donc À bout de souffle de Godard et puis Boyhood de Richard Linklater. Donc ça, c'est disponible jusqu'au 7 novembre. Et sur Mubi, un focus beaucoup plus large, alors sans deadline, donc regardez-les vite parce que Mubi a tendance à les faire disparaître assez rapidement sans prévenir. Un focus donc sur les débuts de la Nouvelle Vague avec 9 films, souvent des premiers films donc de Rosier, Godard, René, Varda, Rouchet-Morin, Rivette, Truffaut ou encore Romère, et qui sont des films pas très longs pour la plupart, enfin à part Rivette, pas très longs, qui donnent ce que je souhaite faire Nouvelle Vague, et à mon avis y arrive, au fond vraiment envie de faire du cinéma, vraiment envie de prendre une caméra qui sont des feel good movies d'une certaine façon, au même titre que Nouvelle Vague, pour l'énergie qu'ils dégagent, quand bien même évidemment les thèmes ne sont pas forcément feel good. Voilà, tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci beaucoup à tous les 4, Clémence, Aubry et Juliette, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On ne se retrouve donc non pas la semaine prochaine, car ce seront les tant attendues vacances, mais dans 2 semaines, pour parler du premier film français de la saison, et quel film, puisqu'il s'agira de Chien 51 de Cédric Jiménez. Tout cela, comme d'habitude, sera disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée, bonnes vacances à toutes et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma, et vive Transistor.